Il vient d'être 18h au studio Kalangou. Bienvenue au journal en français dans une présentation de Rafika Taher. À présent, les titres. Des actions de médiation et de réconciliation, c'est une initiative prise par des groupes de jeunes dans un village de la commune rurale de Danchandou. Les raisons dans ce journal. Vous aurez aussi dans ce journal les résultats de l'étude sur la migration et l'exploitation agricole dans les régions de Dosso et Maradi avec un membre du GERMES. Le recours à la force ou à d'autres formes de contraintes, c'est le vécu de milliers de personnes d'hommes, femmes et enfants victimes de la traite des personnes dans leur pays d'accueil. Le magazine de ce soir, une coproduction des studios Tamani et Kalangou. Plusieurs FADA ou groupes de jeunes du village de Gogezedo, commune rurale de Danchandou, région de Tillabéri, mènent des actions de médiation et de réconciliation entre communautés et des activités de développement dans le dit village. Selon Souma Kouyhamani, membre de la FADA Irm Tcheredi, ces actions sont réalisées au profit des populations. On l'écoute au micro de Hassan Moumouni.
Ici à Gogezé, nous avons 4 FADA. Ces FADA se sont organisés pour réfléchir sur les difficultés que connaît la ville. La première difficulté, c'est qu'il y a un manque de cohésion. Les gens ne se solidarisent pas. Alors ces FADA se sont concertés pour voir comment solutionner cet état de fait. Les FADA ont implanté des pompes dans la ville qui est subdivisée en 4 quartiers. Cette réalisation a été estimée à 700 000 francs CFA. Ces FADA ont cotisé pour trouver le montant. Ensuite, elles ont opéré une autre cotisation d'un montant de 300 000 francs pour acheter des fournitures, l'achat de 7 petits ruminants qu'elles ont mis à la disposition de l'école pour encourager les élèves méritants. Ces FADA ont débloqué un montant de 250 000 francs pour acheter des produits pharmaceutiques au profit du centre de santé de la ville. Il y a moins d'un mois, elles ont acheté un tonnage de riz pour distribuer à la population. Présentement, ces FADA ont acheté des cahiers, des livres et des lampes pour ne pas tendre la main ailleurs pour être assistées.
Le groupe d'études et de recherche sur la migration, les espaces et les sociétés a effectué une étude sur les impacts de la migration sur l'exploitation agricole au sud du Niger. Cette étude a concerné 7 communes de 2 régions du Niger, Dosso et Maradi. Un atelier de restitution a eu lieu ce 5 février à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Issa Abdulhiza, géographe à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Abdou Moumouni de Niamey et membre du GERMES revient sur les résultats de cette étude. Il est au micro d'Olivier Assogbavi.
Le premier constat, c'est que c'est une population jeune, d'abord. Deuxièmement, une population en forte croissance. Et troisièmement, l'agriculture est l'activité principale. L'agriculture, là, elle est vivrière, elle est maraîchère, mais elle est surtout vivrière. Le quatrième constat qui nous paraît très, très, très important, c'est que du point de vue de la migration, toutes ces communes-là sont dans l'abondance dominance répulsive. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'immigration. Ces communes-là accueille très peu de monde, bien sûr à des degrés divers. Plus une zone a une potentialité agricole, plus elle attire du monde. Et l'autre constat, c'est que d'une certaine manière, l'agriculture ou le maraîchage contribuent à financer la migration.
Déjà plus d'une semaine que le syndicat des enseignants des universités publiques du Niger a lancé son mot d'ordre de grève d'un mois. Malgré les tentatives de médiation, la situation est toujours bloquée. Que font les étudiants pendant cette période? Ce matin, notre reporter Olivier Assogbavi s'est rendu au campus universitaire où il a rencontré quelques-uns. On les écoute.
Ce qui a vraiment aggravé la situation, le fait de bloquer tout. Mais cela n'empêche pour nous de venir à la fac, en tout cas au moins se réviser, même s'il n'y a pas cours dans certaines, comment dirais-je, facultés. Au moins les camarades venaient toujours, mais malheureusement c'est malgré eux. Ils ne peuvent rien faire et on observe. Et que nous demandons sincèrement à l'État de trouver une solution.
L'enseignement supérieur est bloqué et que nous en tant qu'étudiants aujourd'hui, vous conviendrez avec nous, en réalité on est là, on ne peut que réviser, renforcer et approfondir nos cours et un certain nombre d'aspects de recherche ici à la fac. On ne peut pas quitter la fac.
Du côté étudiant, vraiment, nous trouvons ça vraiment très amertume tous les deux côtés, puisque dans tous les cas, c'est nous les victimes. Et en ces moments de grève, nous n'avons pas le courage de réviser. On ne fait ça juste par volonté.
L'inspecteur de l'enseignement primaire de Gaya a effectué une tournée hier dans les communes rurales de Bana et Bangou. C'est pour sensibiliser les habitants à scolariser leurs enfants ou les insérer dans les centres de formation. Selon Amadou Djibo, les enfants exercent des activités génératrices de revenus qui empêchent leur scolarisation. Amadou Djibo au micro de Fadel Alou.
La commune de Bangou, c'est une commune où vraiment ces apprenants-là sont attirés par des activités génératrices de revenus. Ce qui fait en sorte que des fois la fréquentation n'est pas du tout bonne. Comme je l'ai dit, les apprenants sont attirés par les activités génératrices de revenus. Tout de même avec la mission qu'on vient de finir, en tout cas, on compte que ces apprenants-là reviennent dans les centres et que tout va bien, Inch'Allah. Pour les centres, je crois qu'on a 14 centres. Mais les effectifs, comme vous le savez, nous sommes en train de faire la tournée. Donc on ne peut pas vous donner en tout cas des données fiables. Nous voulons aussi que cette population comprenne. Est-ce que ces centres-là sont placés dans leur localité pour pouvoir prendre en charge les élèves qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école.
La commune de Tessawa, dans la région de Maradi, vient d'élaborer son programme du développement communautaire 2020 la semaine dernière. Celui-ci permettra, selon le maire, de combler un vide. Aboubakar Lalositou, maître de Tessawa, au micro de Seyou Sanke, Tessawa.
Ce programme, comme vous le savez, définit toutes les activités que la commune envisage de réaliser. Toute la planification de ces activités est contenue dans ce programme, que l'on appelle le PDC, Programme de développement communal. Pour ce qui concerne le dernier plan de développement de notre commune, c'est en 2014 que nous l'avons fait et il a été bouclé en 2018. Durant toute l'année 2019, nous avons travaillé sans PDC. Tout de même, nous avons poursuivi les activités sur le bilan des actions et du PIA, le plan d'investissement annuel, l'exécution de quelques activités qui n'ont pas été réalisées jusqu'en 2018. C'est donc cette programmation que nous avons exécutée pour l'année 2019. En attendant l'établissement d'un nouveau PDC qui sera fait aux prochaines assises du Conseil. Voilà que nous sommes en 2020. C'est en 2019 seulement que nous avons mis en place le comité qui est chargé de l'établissement du PDC.
Face au taux de mortalité et de morbidité élevé au Niger, le Fonds mondial investissera pour le nouveau cycle de financement par rapport au VIH, SIDA, le paludisme, la tuberculose et le renforcement du système de santé 80 milliards de francs CFA. C'est ce qu'explique Mme Cheibou Halimatou, vice-présidente du Conseil de coordination multisectorielle lors d'une rencontre de concertation Dialogue Pays tenue lundi à Agadez.
Le Fonds mondial investira pour le nouveau cycle de financement par rapport à la tuberculose, par rapport au VIH et au paludisme et le renforcement du système de la santé, une enveloppe de 80 milliards de francs CFA. Cette enveloppe constitue 80% de tous les financements que l'État et ses partenaires arrivent à mobiliser pour la lutte contre ces trois maladies. Nous avons visé ces trois maladies parce que notre pays fait face à un taux de mortalité et de morbidité élevé par rapport à ces trois maladies. Et vous savez que la pyramide sanitaire du Niger, la base, c'est la jeunesse. Et vous savez que l'adolescence est un âge où les adolescents prennent des risques, ou s'ils n'ont pas de connaissances, par exemple, par rapport au VIH, nous avons des problèmes. C'est pourquoi il faudrait des actions auprès des jeunes. Pour le paludisme, vous savez que chaque Nigérien, en tout cas surtout les femmes et les enfants, face à un taux de morbidité élevé du paludisme. Les zones nomades, les transhumants, sont infectés par la tuberculose.
Doter les participants des connaissances afin qu'ils soient des formateurs sur les pratiques anticorruption, c'est l'objectif d'une formation organisée par l'Institut des Nations Unies pour la recherche et la formation la semaine passée à Kigali, au Rwanda. 15 jeunes de 7 pays africains ont pris part. Présent à la rencontre, le président du laboratoire nigérien Accountability Lab, Adamu Umaru, réagit au téléphone d'Olivier Asokbavi.
Ce que nous avons proposé à Kigali, c'est vraiment la lutte contre la corruption, surtout en période électorale. Comme vous le savez, presque tous les pays du Sahel sont des pays qui sont pratiquement en préparation des élections entre l'année 2020 et 2021. Donc pour cela, nous avons proposé des thématiques sur la corruption politique, sur la crédibilité des élections et sur l'intégrité aussi des organes, l'intégrité du cycle électoral en entier.
Du cinéma dans cette édition, des jeunes cinéastes nigériens émergent sur la scène nationale et internationale. Âgé de 29 ans, Rachid Maiga en est un qui a à son actif 6 courts-métrages, dont le dernier intitulé « La chambre 318 », un film de 13 minutes et une série « Chronique d'une famille ». Interrogé par Diallo Maria Makenda, Rachid Maiga nous parle de « La chambre 318 ». On l'écoute.
J'étais beaucoup plus dans les films d'auteur, les films qui vont beaucoup plus, qui questionnent la personnalité de la personne. Mais cette fois, j'avais envie de sortir de ma zone de confort et d'essayer un trailer. On l'a fait et apparemment, les gens ont bien accueilli le film parce que j'étais inquiet. J'avais fait un choix personnel de réduire la violence et de ne pas utiliser du sang dedans et tout, mais garder l'attention seulement. C'est un court-métrage de 13 minutes. Je me suis dit que, ok, si je n'ai pas de l'argent pour faire les longs-métrages, je reste dans les courts-métrages. C'est vraiment un challenge d'écrire un film qui se passe dans une seule chambre avec 4 comédiens. Comment tenir le public et essayer aussi de voir comment on peut résoudre un meurtre comme ça avec 3 personnes. Ils sont tous présumés coupables.
Vous pourrez découvrir davantage le jeune réalisateur Rachid Maiga et son court-métrage Chambre 318 demain dans la partie magazine du journal. Studio
Kalangu. À Difa,
Alternative FM 99.4 MHz à Zender,
Geskia FM 89.5 MHz à Maradi,
Saraunia FM 102.1 MHz à Kyoto,
Bonferé Fuma 99 MHz. Studio
Kalangu. Dans une étude menée par l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes au Niger, il ressort que de nombreux migrants du Mali, du Niger et d'autres pays subsahariens sont contraints à l'esclavage, à l'exploitation sexuelle et à d'autres formes d'exploitation et traitements inhumains et dégradants dans leur pays d'accueil. Suivant cette coproduction des studios Tamani et Kalangu, elle est signée Hawa Ousmane.
À Kanché, dans la région de Zender, plusieurs habitants migrent vers l'Algérie. Leur objectif, chercher de quoi subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. Au cours de leur déplacement, comme dans ce pays d'accueil, beaucoup sont souvent victimes de travail forcé, de prostitution et bien d'autres formes de traite des personnes. Le phénomène inquiète l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes au Niger. Pour sa directrice, Goje Memouna Gazibo, les femmes et les enfants sont les plus touchés.
L'étude nous montre que 83% de ceux qui se déplacent aujourd'hui pour aller en Algérie, en Libye, vous n'avez que 7% d'hommes exploités dans le cadre de la traite des personnes. Le reste, c'est les femmes, le reste, c'est les enfants. Or, qui sont les plus couches vulnérables dans un pays? C'est d'abord les femmes, c'est d'abord les enfants. Et ces deux couches-là restent essentiellement les couches utilisées dans la traite, dans le trafic illicite de migrants.
En 2014, une autre enquête diligentée par les autorités de la commune de Kourmi, département de Kanté, montre qu'en Algérie, ces migrants se livrent à la débauche. Sani Ousmane, maire de Kourmi.
Comme nous l'a été relaté par un missionnaire que nous avons envoyé sur place en terre algérienne, les principales activités que mènent nos compatriotes une fois en Algérie sont essentiellement la mendicité. Il y en a qui font les travaux domestiques. Il y en a aussi qui font des travaux physiques comme la maçonnerie. Selon ce rapport, il nous a clairement indiqué que vraiment nos femmes qui quittent nos terres là pour l'Algérie, elles se livrent même parfois à la débauche, à la prostitution.
Face à cette forme de traite de personnes, les autorités judiciaires doivent servir, explique Mme Goje Memouna Gazibo. Selon la magistrate, les auteurs peuvent faire l'objet de poursuites et doivent être sévèrement punis.
Quand vous prenez la loi 2010-086 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes, lorsque vous exploitez par le travail, la prostitution, une femme ou un enfant, vous pouvez prendre jusqu'à l'emprisonnement à vie. Il y a des amendes qui peuvent aller jusqu'à 500 000. Lorsque c'est une femme en grossesse, vous pouvez prendre jusqu'à 30 ans. Mais à la date d'aujourd'hui, les peines les plus sévères prononcées par les juridictions du Niger, c'est 7 ans. Les moins sévères, vous avez 3 mois, vous avez 6 mois.
La migration des Maliens et des Nigériens a pris une proportion importante ces dernières années. Pour les défenseurs des droits des migrants, la situation doit interpeller la conscience collective.
C'est la fin de cette édition. Tout de suite, Mokhtar Hamadou pour le forum sur l'esclavage moderne, travail des enfants dans les mines et les carrières. Bonne réception.